enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, ce qu'on va faire, on va étudier l'autorité du croyant. Vous savez, moi, je crois que l'autorité du croyant, c'est ça qui va nous séparer avec toute la religion chrétienne. Vous avez dit la religion chrétienne. Dans le sens, la vie chrétienne, on va à l'église, tout ça, et on peut vivre une religion, mais en tant que croyant, Dieu nous appelle à vivre une relation avec Dieu. Donc, on devient les amis de Dieu. Et moi, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui aiment Dieu, mais qui n'ont jamais saisi c'était quoi leur autorité en Christ. Puis là, ils passent à côté de toutes sortes de choses que Dieu a en réserve pour eux. Et souvent, en parlant avec les chrétiens du Québec ou en écoutant qu'est-ce qu'ils disent, on voit qu'il y a une vaste différence entre ceux qui comprennent l'autorité du croyant et ceux qui ne marchent pas dans cette dimension-là. Et qu'est-ce que ça fait? Quand on ne comprend pas l'autorité du croyant, on devient un tapis pour le diable. Donc, il peut faire qu'est-ce qu'il veut avec nous parce qu'on ne sait pas qu'on a l'autorité de prendre notre autorité en Christ. Alors, ce matin, ce qu'on va faire, on va étudier, le thème, c'est « destiné à régner ». Nous sommes destinés à régner. Amen. C'est tout un titre, ça. Régner, la royauté, moi. Oui, on va voir ça ensemble. Destiné à régner. Et puis, je crois qu'on va avoir du bon temps dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans la parole de Dieu ce matin et être renouvelé dans votre intelligence? Amen. On va juste prier avant d'aller à l'étude. Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Et Seigneur, je prie que chaque personne ici va faire en sorte que toutes leurs pensées vont être captivées à ton obéissance, Seigneur Dieu. On amène toutes nos pensées captives à toi. On va penser, Seigneur, à tes paroles et on va vraiment t'honorer ce matin. Seigneur, lorsqu'on va aller dans la parole de Dieu, on va te laisser nous enseigner qu'on puisse grandir dans tes voies et qu'on puisse vivre un changement dans notre vie. On a pris au nom de Jésus pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, il y a plusieurs personnes de ce temps ici qui parlent de la crise économique. Est-ce que vous avez écouté les nouvelles un petit peu? Tout le monde en parle, tout le monde a peur de la crise économique qui s'en vient possiblement, ou il y en a qui disent qu'on est déjà dedans. Mais vous savez, si on connaît notre autorité en Christ, il n'y a rien de ça qui nous dérange. En tout cas, on ne devrait pas être dérangé. Et la semaine passée, on a parlé comment on devait s'engager pour entrer dans notre destinée. Et cette semaine, on peut maintenant aller encore plus loin dans les choses de Dieu pour établir comment on peut vraiment régner dans notre destinée, régner dans l'héritage que Dieu nous donne. La semaine passée, on a tout parlé de notre héritage, qu'est-ce qui nous appartient en tant qu'enfant de Dieu. Si vous l'avez manqué, on va le reprêcher une autre fois. Quelque part. Parce que moi, l'héritage, c'est quelque chose que je crois que chaque chrétien a besoin de vraiment connaître et comprendre. Mais vous savez, cette semaine, et même en fait hier, j'ai visité un site web concernant des paroles prophétiques concernant la crise économique. Quand j'étais au Miracle Channel en Alberta, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Cindy Jacobs qui a donné des paroles prophétiques me concernant mon épouse et même la naissance de Félicité. Quand Cindy Jacobs a prophétisé, elle a dit, cet enfant va naître une journée qui va vraiment être une journée de transition pour la nation du Canada. Et puis ensuite, elle prophétisait comment Félicité, mais elle ne savait même pas si c'est une petite fille encore, mais elle disait, le bébé dans ton sein va être utilisé de la main de Dieu pour amener une réconciliation entre les Anglais et les Français. Puis, en tout cas, elle nous a donné des paroles prophétiques aussi concernant le ministère auprès des Français, tout ça. Et en tout cas, c'est une femme de Dieu. Et je peux vous dire, quand on peut vraiment discerner si quelqu'un a un vrai ministère prophétique authentique, en tant que prophète, cette personne-là va souvent avoir une influence ou devrait avoir une influence au niveau national. Si vous lisez l'Ancien Testament, les prophètes, ce n'était pas simplement quelqu'un qui nous donnait une parole d'encouragement personnel. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui va parler, puis toute une nation va écouter, ou au moins va avoir l'influence des nations. Et Cindy Jacobs, juste vous laisser savoir, elle avait donné une parole prophétique en Argentine. Puis elle disait aux pasteurs en Argentine, elle dit, si vous ne vous repentez pas, elle dit, il va y avoir du sang qui va couler dans vos rues. Puis là, les pasteurs, ils ont dit, mais voyons donc. T'sais, ils ne croyaient pas ça. Mais dans 2 semaines, il y avait eu une guerre civile, une révolte en Argentine, puis sa parole prophétique s'est accomplie. Alors, moi, je vois que c'est une femme vraiment crédible. Et puis, il y a une autre dame avec ce genre de ministère. Son nom, c'est Sharon Stone, mais ce n'est pas l'actrice. OK? Sharon Stone a donné une parole prophétique aussi concernant la crise économique qui s'en venait. Cindy Jacobs, elle, juste pour vous résumer, elle disait que si l'Église de Jésus-Christ prie, on est capable d'empêcher cette crise-là à venir, ou au moins l'empêcher à venir dans nos vies. OK? Mais l'autre aussi, Sharon Stone, pardon, elle a prophétisé plein de choses qui est sur le site web Elijah List. Là. Je ne prendrai pas le temps de tout lire, mais elle disait qu'elle voyait qu'il y avait des banques qui étaient pour s'écrouler. Puis là, il y a toutes les confirmations des paroles qu'elle avait données. Elle disait, je vois le gouvernement aux États-Unis bailing out mortgage giants. Donc, les États-Unis vont aider des géants qui donnent des hypothèques. Et donc, le gouvernement des États-Unis va venir à l'aide de ces compagnies-là ou de ces banques-là pour faire en sorte qu'ils ne fassent pas banqueroute. Et puis là, ensuite, on voit les noms des compagnies qui rentrent dans cette prophétie-là. Même en Angleterre, elle parle de l'Angleterre, comment il va avoir des coupures. Puis même elle dit, je vois que le monde va commencer à regarder à l'Alaska. Puis elle dit, elle parle comment, en tout cas, toutes sortes de choses, mais il faut garder nos yeux sur Jésus-Christ. Mais vous savez que maintenant, qui vient de sortir de l'Alaska, c'est Sarah Palin, qui est maintenant l'assistante au vice-président, ou il n'est pas président encore, ou il ne sera peut-être pas non plus, mais McCain, donc le président, celui qui est pour pas les démocrates, les républicains aux États-Unis, donc c'est Sarah Palin qui vient de l'Alaska. Parce que c'était vraiment intéressant quand j'ai lu ça, mais tout ça pour dire, Dieu est au courant de ce qui s'en vient, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on connaît notre héritage en Christ, on n'a pas besoin de s'inquiéter de ces choses-là. On va vivre dans une société qui peut être ébranlée à plein de niveaux, mais si on connaît qui on est, on n'a pas d'inquiétude à y avoir, parce qu'on est des résidents du ciel. Moi, ma citoyenneté, c'est le ciel. Saviez-vous ça? C'est ça ma citoyenneté. J'habite à Bromont, au Québec, au Canada, je suis Canadien, mais en même temps, ma première citoyenneté, c'est céleste. Puis j'ai une super de belle maison qui m'attend là-bas. Je ne l'ai jamais vue encore, mais elle est très, très belle. On me dit que c'est vraiment impressionnant. Mais en tout cas, tout ça pour dire, moi, je suis un enfant de Dieu et puis je suis appelé à régner et de simplement là, prendre, s'il y a une vague qui s'en vient, moi, j'embarque sur mon scooter, mais comment on dit? La planche et puis je passe au-dessus de ces choses-là. Amen, parce que je suis appelé à régner. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. Vous allez voir ce que je vous dis. C'est fondé dans la parole de Dieu. Puis on va grandir dans ses voies. Puis là, si vous prenez des notes, vous allez pouvoir prendre ces versets-là et méditer sur ces versets cette semaine. Et là, s'il y a des personnes qui commencent à dire « Ouais, mais là, j'ai peur de perdre ma maison. » D'un coup, si on commence à avoir des taux d'hypothèque qui augmentent tout d'un coup, puis là, il y a toutes sortes d'affaires. Puis là, vous savez, la crainte, ça peut saisir notre cœur. Mais là, vous pourrez dire il y a peut-être cette possibilité-là pour certaines personnes, mais moi, vu que je suis un enfant de Dieu, pas juste sauvé, mais je connais mon héritage et je la reçois, je sais que je vivrai pas ces choses-là. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de savoir que nous autres, on va être exclus de ces choses-là. C'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Romains chapitre 5 et le verset 17. Aujourd'hui, je vais lire de la Bible Louis II. Presque toute la réunion, mais quand ça va être la Bible du Sommeur, je vais vous laisser savoir, OK, c'est la Bible du Sommeur, parce que des fois, la version est un petit peu différente. Il y a toutes sortes de richesses quand on lit dans des versions différentes. Donc, Romains chapitre 5, le verset 17, il est écrit, « Si par l'offense d'un seul, en parlant d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie ?» par Jésus-Christ, lui seul. Je vais le relire. Donc, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. On sait que Adam et Ève ont chuté et puis le péché est entré dans le monde. Mais là, ça dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, donc le message de la grâce, c'est qu'on peut recevoir la vie éternelle dans nos vies gratuitement. Dieu nous fait le cadeau. Si vous voulez entrer au ciel, la seule chose que vous devez faire, c'est me donner votre vie. Et puis ça, c'est une grâce, une faveur qu'on ne mérite pas. Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on passe de la mort à la vie. C'est une grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Puis ça dit, c'est ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Donc, on est déclaré juste devant Dieu. Ça veut dire, on est étampé juste. Même si j'ai commis des péchés dans le passé, une fois que j'ai été purifié de tous mes péchés, là, Dieu me voit juste. À cause, je suis en Christ. Et Christ n'en a pas de péché, lui. Il a vécu la vie parfaite. Quand je suis en lui, Dieu me voit parfait. C'est merveilleux, ça. Ça, c'est parce que je suis en Christ. Ça dit, donc, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Et oui, moi, on peut dire, oui, je vais régner dans cette vie par Jésus-Christ. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, dans la Bible du Semeur, ça dit, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien les autres merveilles de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, nous sommes la royauté aujourd'hui. Nous sommes des rois prêtres, un peuple que Dieu a libéré. Amen. Donc, c'était dans 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 9. Est-ce que vous voyez comme étant de la royauté ce matin? Amen. Moi, je me vois comme étant royal. Peut-être pas habillé comme quelqu'un de royal, mais je me vois dans la royauté de Dieu. Et à cause de ça, là, j'ai tous les privilèges qui appartiennent à la royauté, à cause de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit tantôt, qu'est-ce qui sépare beaucoup la religion d'une vraie relation avec Jésus-Christ et de ceux qui vivent vraiment les promesses de Dieu? C'est tout au niveau de notre compréhension de notre autorité en Jésus-Christ. Là, ce qu'on va faire ce matin, on va retourner jusqu'au début. On va voir dans le livre de la Genèse où l'autorité a été premièrement donnée. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Et une fois qu'on comprend ça, là, ça va tout changer notre façon de voir les choses. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vivre un déclic dans votre tête aujourd'hui? Amen. Donc, Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Je vous encourage à même prendre les versets en note, parce qu'après, là, vous pourrez l'enseigner aux autres. Vous pourrez dire, « Hey, c'est ça qui s'est passé, c'est ça qu'on peut vivre aujourd'hui. » Donc, Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Ici, on parle de la dominion ou l'autorité qui avait été donnée à Adam. Donc, ici, ça dit, « Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Que quand Dieu a créé Adam et Ève, tout de suite, Dieu a donné une responsabilité d'autorité à Adam. Et cette responsabilité-là, c'était l'autorité de dominer sur toute la terre. On comprend ça? C'est ça, c'est écrit. Qu'il domine. Donc, Adam, c'était comme le roi de la terre, celui qui pouvait juger de tout. Dieu y avait donné l'autorité. OK, sauf que ça, c'est simple, on comprend ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ici, on voit Genèse 2, en allant au chapitre 2, versets 15 à 17. Ici, c'est ce que Dieu a donné comme ordre à Adam. Donc, Adam, il était en charge à dominer, comme on vient de lire ici. Et Dieu avait même donné l'onction de multiplication dans sa vie. Donc, on voit ici, ça disait « multipliez-vous ». Et souvent, on pense que c'est juste au niveau d'avoir plusieurs enfants. Mais on peut voir aussi que ça touche à n'importe quoi. Dieu l'avait vraiment donné, il a dit « multipliez et remplissez la terre ». Donc, ça peut être à plein de niveaux où Adam avait une onction de multiplication dans sa vie. Quand il touchait quelque chose, c'était béni parce que la malédiction n'était pas là. Mais là, dans Genèse 2, verset 15 à 17, ça dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. » Donc, tout de suite, il y avait une job. Il est engagé par Dieu et celui-là, il était le jardinier. C'est la première job, la première carrière des êtres humains. Cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc ici, vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il voulait aimer des créatures. C'est qu'il a créé Adam et Ève, les objets de son amour. Mais vous savez, si l'être humain n'a pas l'opportunité de faire autre chose que d'aimer quelqu'un, c'est pas de la vraie amour, parce que l'amour, il faut que ça soit un choix. Par exemple, si j'avais dit à Mathilde, mon épouse, « T'es obligée de m'aimer et on va se marier ensemble et tu vas m'aimer. » Mais là, ça ne serait pas vraiment l'amour de son cœur. Admettons, si elle avait dit oui, là, ça ne serait pas vraiment de son cœur, ça serait quelque chose de forcé. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait aimer les créatures, donc il a créé les êtres humains. Il nous a aimés, il marchait avec Adam dans le jardin, il y avait du bon temps ensemble, il y avait une fraternité, une relation d'intimité ensemble. Mais là, pour être sûr que c'était un choix, que Adam voulait bel et bien jaser avec lui, il voulait vraiment être son ami, Dieu, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? C'est donner un autre choix. Simplement, il a dit, mange pas de cette sorte de fruits. Puis là, je vais voir, mais si tu en manges, là, tu vas mourir. Mais si tu n'en manges pas, tu vas être correct. On va pouvoir continuer à être amis. Vous savez, dans toute simplicité, c'est juste ça. Dieu voulait donner un choix à l'être humain, qu'on choisisse de l'aimer ou qu'on choisisse de l'haïr en se détournant de lui. Et là, l'être humain, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Genèse 3, verset 1. Là, ici, on voit que Satan a interrogé Ève dans la forme du serpent. Puis là, il a dit, « Dieu a-t-il réellement dit ça? » Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? « Dieu a-t-il réellement dit? » Et là, la première chose, la première semence qui a amené tout le péché dans le monde, c'était une question remplie de doute. Voyez, le doute, c'est toujours l'opposé de la foi. Alors, l'ennemi, le diable, il est venu puis il a dit, « Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce qu'il ne voulait pas plus dire si? » ou... Mais en réalité, c'est ça qui va arriver si... si tu prends de ce fruit-là. Vous savez, il était tout rempli là, de séduction. Et là, Ève, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été un poisson, puis elle l'a tout pris. Pas d'offense aux poissons. Mais on a un couple ici qui s'appelle les poissons, sauf que c'est pas pour les offenser. Mais ils ont été comme, ils ont accepté, là, elle a accepté tout qu'est-ce qu'il disait. Et puis finalement, elle a péché, et puis son mari a également pris le fruit défendu. Et puis là, le péché est entré dans le monde. Ça, c'est l'histoire de la Genèse. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Une fois qu'il a pris le fruit, là, Adam, il avait reçu l'autorité de Dieu. Et là, Adam a donné son autorité au diable. Vous savez, c'est le diable qui avait compté le mensonge et eux ont décidé de croire le diable. Alors là, Adam et Ève ont remis l'autorité qui leur appartenait de dominer et là, ils l'ont remis à Satan lui-même. Et là, dans 2 Corinthiens 4:4, ça dit que le diable est le dieu de ce monde. Vous l'avez lu dans la parole de Dieu, le diable, toutes les choses qu'on voit, la guerre, toutes les horreurs, la maladie, c'est tout à cause du péché, c'est tout à cause du règne de Satan dans le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on est supposé d'être sujet à toute l'œuvre de l'ennemi ou est-ce qu'on a une condition différente? Si on croit ce que Dieu nous a promis, est-ce qu'on est censé de vivre toute l'horreur qui est là dans le monde ou est-ce que Dieu a un plan et une provision pour ses enfants? Vous savez, moi, je suis un papa, j'ai deux petites filles, puis mes enfants, je les aime, je veux prendre soin d'eux autres. Parce que c'est ceux qui ont, un petit peu des privilèges que les autres enfants que je ne connais pas. Mais c'est normal, avec Dieu, ceux qui sont proches de lui vont avoir accès à des promesses, à un privilège que les autres n'ont pas. Mais en même temps, Dieu, là, il veut que tout le monde reçoive ses bontés. Dieu veut que tout le monde reçoive ces privilèges-là, que tout le monde puisse être dans les forfaits qu'il a préparés pour eux. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut Dieu dans leur vie. C'est toujours la même chose. C'est qu'on a toujours une question de choix. Est-ce qu'on veut donner notre vie à Jésus-Christ ou est-ce qu'on veut être gouverné par notre propre vie? Mais si on dit, oui, Seigneur, moi, je veux te donner ma vie, je veux te servir avec ma vie, bien là, on peut commencer à recevoir les bienfaits de notre salut en lui. Amen. Sauf que là, c'est intéressant. C'est quand même une base. Je suis en train de vous établir ici une base. Vous comprenez, bon, le péché est entré dans le monde, quelque chose qu'on connaît, mais de comprendre que l'autorité à gouverner ou l'autorité à dominer sur la terre avait été donnée à Satan. Et là, Genèse 3, 9 à 10, un des résultats de ça. C'est pas seulement que le péché est entré, mais quelque chose d'autre qui est entré. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc, tu sais, une des choses qui est rentrée dans le monde, c'est la peur, la crainte. Et c'était même par le doute, qui est l'opposé de la foi, encore une fois, le doute a été l'instrument que l'ennemi a utilisé pour entrer dans le monde. Et là, on voit tout de suite, la récolte était animée par la peur et la crainte. C'est ça qui s'est passé avec Adam. Donc, c'était dans Genèse 3, 9 à 10. Et là, par conséquent, qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse 3, 17 à 19, ça dit « Le sol sera maudit avec plein d'épines. » Et au verset 19, ça dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Vous l'avez entendu celle-là? C'est à la sueur de notre front qu'on travaille. et au Genèse 3, 24, ça dit « Adam a été chassé du jardin ». Puis le mot « chassé » dans l'hébreu, c'est le mot « garash » qui veut dire « forcé ». Il était obligé de partir, puis il y avait même des chérubins aux portes de l'entrée du jardin qui l'empêchaient de revenir. C'est parce qu'il a été expatrié de sa résidence où il avait toujours connu le beau jardin d'Éden. Et tout d'un coup, Adam et Ève ont été forcés à quitter le beau jardin d'Éden où toute la provision était là à cause du péché. Mais Jésus-Christ a fait quelque chose de merveilleux. Là, je vous ai tout parlé du péché. Je vous ai parlé comment l'être humain a donné son autorité à Satan. Mais Dieu, dans le ciel, a vu les êtres humains. Et puis, il avait tellement de compassion pour les êtres humains que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous savez, je vois toutes ces créatures-là qui sont perdues sans moi, sont dans le péché. Et moi, ce que je veux faire, c'est je veux venir les sauver. Alors, Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Il a vécu la vie parfaite. Jésus a vécu la vie parfaite. Et puis là, il a reçu notre punition qu'on méritait tous. C'est ça le message du salut. Quand on voit un crucifié avec un Jésus sur la croix, c'est pour ça. Des fois, on va parler avec des gens au Québec, on va dire, « Mais pourquoi Jésus était sur la croix? » Je ne sais pas. Il y en a plein. On va poser la question, « Ben, il est mort pour nous autres. » Oui, mais pourquoi il est mort pour nous autres? Je ne sais pas. C'est ça qu'on m'a enseigné. Mais il y a une raison. Jésus est venu payer la dette de mes péchés. Moi, j'avais commis plein de péchés, même avant que j'existe. Dieu savait que j'étais pour vivre des péchés, que j'étais pour commettre des péchés. Et Dieu avait décidé de porter mes péchés, même avant que je sois là. Donc, Jésus a été puni à ma place. Lui qui était parfait, qui n'avait rien fait, il a été puni à notre place. Et quand on met notre foi en lui, là, on est complètement libéré de tous ces péchés-là, quand on lui demande pardon pour nos péchés. Et là, ici, ça nous dit, au 1 Corinthiens, versets 15 à 22, c'est dit, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Parce que le salaire du péché, c'est la mort, et on est tous pécheurs. Mais grâce à Dieu, ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est en Jésus-Christ, nous pouvons avoir tous nos péchés pardonnés. Et là, on peut vivre le salaire de la justice, qui est le pardon complet en Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 15, 45, ça dit, c'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. » Amen. Et là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On connaît ça des fois si vous êtes allé à l'école du dimanche. Vous la connaissez, l'histoire d'Adam et Ève. On la connaît tous, cette histoire-là. Mais là, d'arrêter et voir, OK, on sait que l'autorité a été donnée à Satan. Et souvent, nos profs d'école du dimanche vont arrêter là puis vont nous dire, « Ben oui, l'être humain a péché, puis c'est ça. Puis là, tout ce qu'on voit, c'est à cause de lui. » Mais là, heureusement, Jésus a fait quelque chose. Jésus a regagné, on peut dire d'une façon légale, il a regagné l'autorité qui avait été donnée à Satan. Et aujourd'hui, on peut recevoir notre héritage. Galates 3, verset 13, ça dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit à quiconque est pendu au bois. » Donc, on a été racheté de la malédiction de la loi. Si vous voulez savoir c'est quoi, c'est dans Deutéronome 28. Toute la malédiction et la bénédiction, mais toute la bénédiction est là. Et Christ nous a racheté de ça. Il a tout repris. Tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Jésus, lui, quand il est venu mourir sur la croix, il a tout repris qu'est-ce qu'on avait perdu, nous, les êtres humains. Donc, ça, c'est merveilleux. Oui, le diable a réussi à séduire dans le jardin d'Éden, mais grâce à Jésus-Christ, l'autorité a été regagnée. Mais là, vous allez dire, Joël, il y a encore de la guerre, il y a encore toutes sortes d'affaires qui se passent dans le monde. On dirait, Jésus, il a rien fait, on dirait, là, parce que sinon, tout aurait arrêté. OK, mais c'est là le problème où l'Église est aujourd'hui, parce qu'on sait que oui, Jésus a fait des grandes choses, mais on s'arrête à ça. Et la différence entre nous, ce qu'on veut faire ici, et plein d'autres croyants, t'sais, on veut déposer quelque chose dans votre cœur pour que vous puissiez savoir vraiment que vous avez de l'autorité. Puis là, Éphésiens 1, verset 20, ici, là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Éphésiens 1, 20 à 23, ça dit, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. » Que Jésus a toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu, c'est dit ici, il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, Jésus-Christ, c'est le chef suprême de l'Église. On croit ça. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes le corps de Christ. Christ est notre chef. Il est la tête. Mais savez-vous, la tête, d'habitude, va nous dire comment marcher. Hein? Si je fais ça, bien, c'est ma tête qui donne les instructions à mes pieds d'avancer, de bouger. Mais c'est la même chose. Dans le corps de Christ, on n'a pas réalisé que nous avons l'autorité de Jésus-Christ et on peut dominer d'Ambromont. Savez-vous ça? On a l'autorité de venir dominer. À cause, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le corps de Christ. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas ça, quand on ne réalise pas? On est assis sur notre chaise puis on dit, « Seigneur, fais quelque chose. » Mais Dieu dit, « Mais c'est par vous autres que je vais faire quelque chose. Je suis la tête de l'Église, mais vous êtes mon corps. Je m'attends que vous allez recevoir mes conseils, vous allez recevoir mes commandements, puis vous allez marcher là-dedans, vous allez opérer comme je veux que mon royaume opère. » Si on ne sait pas, on attend toujours que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu attend vous, Dieu s'attend que l'Église va faire quelque chose. Amen! Mais c'est tout un mandat rempli. Mais c'est vrai, c'est ça que Dieu veut pour son Église. Puis c'est pour ça que des fois on parle avec des chrétiens puis ils disent « Ah, ben j'attends le temps de Dieu. » Puis un temps aussi, je pourrais vous dire, on peut être dans la patience, on peut prier comme ça. Mais Dieu veut vraiment qu'on puisse être allumé là-dessus sur notre autorité. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, ça dit « Toutes les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Ça, c'est merveilleux. C'est par l'Église encore ici. Et dans Matthieu 28, verset 18 à 20, ça dit « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites. » Ici, là, c'est comme si c'est Jésus qui nous dit « Vous autres, là, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous autres, là, allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous autres, allez leur enseigner à observer tout ce que je vous ai écrit. Et voici, je suis avec vous. » Tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est que c'est pas comme si Dieu nous dit, « OK, allez tout faire, puis je vous laisse tout seul. » Non, non. Il dit, « Allez par toutes les nations, faites de quoi assez vous autres. Je m'attends que vous allez faire quelque chose, mais je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est ça qui nous encourage. Parce que Dieu, Christ, est le chef de l'Église. Nous sommes son Église. On reçoit ses mandats. On dit oui à Dieu quand Dieu nous dit de faire quelque chose. Et on prend les pas par la foi. Qu'est-ce qui se passe après? On est toujours accompagné avec lui. Et là, on peut opérer, marcher dans l'autorité qui nous a été donnée en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? C'est pour ça, nous, quand on était en Alberta, et Dieu nous a donné le mandat de venir faire établir une église ici, si je suis obéissant à la voix de Dieu, je vais dire « Oui, Seigneur, je vais y aller. » Si je suis désobéissant, je peux commencer à penser tout dans le rationnel et être aussi dans un esprit de peur et dire « Ouais, mais s'il y a ça, si, toutes sortes de craintes, de doutes. » Mais si on est son église véritablement, c'est lui qui nous donne les commandements. Et c'est à nous de dire oui, Seigneur. Amen. Donc, Jésus a regagné légalement notre autorité en Christ, l'autorité qui avait été perdue en Adam. Et là, qu'est-ce qui est merveilleux? Jésus aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a renversé notre façon de vivre. Vous savez, tantôt, on a lu qu'on va travailler à la sueur de notre front. On l'a lu ensemble. Mais quand Jésus nous a rachetés, puis quand il nous a rachetés de toute la malédiction, ça implique toutes les choses que Adam avait perdues. Vous allez dire, ouais, mais Joël, faut travailler quand même. Oui, absolument. Faut travailler, mais l'affaire, on va changer d'optique. Maintenant, là, on ne va plus travailler pour notre pain, on va travailler en obéissance à Dieu parce que Dieu est notre source. Si je réalise, Dieu est ma source, je vais mettre à l'œuvre, je vais travailler, mais ça ne sera pas pour gagner mon pain. Parce que mon pain, c'est Jésus qui me le gagne. C'est merveilleux. Ça, c'est un changement d'optique. C'est Jésus qui prend soin de moi. Moi, je suis son corps. Il me nourrit. Amen. Donc, moi, j'ai simplement à obéir ce que Dieu me dit. C'est pour ça que je pouvais quitter un bon salaire pour m'en venir ici, parce que si je suis son corps, il va me nourrir. Amen. Il ne me laisse pas dessécher, je suis son corps. Vous, est-ce que vous vous laissez dessécher? Non, il n'y a personne en train de mourir ici, là. Amen. Donc, Dieu prend soin de nous. Et là, ici, quand ça nous disait, je vais trouver le texte ici là, concernant... OK, c'est ça. Romains 1, 17. Ça dit, « Le juste vivra par la foi. »
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.